10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Un grand rendez-vous particulier parce que nous sommes à Langres, la ville natale du philosophe Denis Diderot, ville de Haute-Marne, parce que nous sommes venus à la rencontre de notre invité, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, président des Républicains, bonjour.
Bonjour.
Vous avez commencé un Tour de France, alors nous allons en parler avec vous. Nous allons évoquer dans cette émission, évidemment, les européennes, puisque vous avez dévoilé votre tête de liste et deux de ses colistiers cette semaine. Premier de cordée qui ne fait pas franchement l'unanimité dans votre famille. Vous allez nous dire comment vous le défendez. Nous allons parler évidemment du grand débat national et des propositions que les Républicains souhaitent faire dans le cadre de ce grand débat. Mais d'abord donc, alors d'abord bonjour à Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Qui est là évidemment pour vous interroger. Damien Fleurot, chef bonjour du Hélène. Service politique de CNews. Un mot donc sur cette ville-étape. Vous avez commencé un Tour de France jeudi. Vous étiez à Belfort. Vous allez poursuivre pendant quelques jours. Quel est l'esprit ? C'est-à-dire, vous vous êtes dit, Emmanuel Macron lance un grand débat. Il part à la rencontre des élus et des Français. Vous vous êtes dit, c'est une bonne idée, c'est la bonne méthode. Je fais pareil.
D'abord, c'est quoi un grand débat ? C'est aller vraiment à la rencontre des Français. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté que l'émission se passe ici à Langres. Il y a un risque profond dans le pays d'une déconnexion qui s'installe. Le sentiment d'un président de la République qui ne comprend plus la vie quotidienne des Français, des députés, à l'image du député En Marche qu'on interroge sur le prix du SMIC et qui est incapable de répondre, et plus largement, le sentiment d'une partie du pays de ne plus être compris. Je vois la façon dont le président de la République mène le grand débat. Et j'ai peur que ce soit artificiel.
Pourquoi ? Parce qu'il va à la rencontre des élus, mais il est aussi allé à la rencontre des Français ?
Un débat, ce n'est pas une succession de discussions dans des salles polyvalentes. Avec plus ou moins de mise en scène, plus ou moins de tri, de façon plus ou moins spontanée. Ça, pour moi, ce n'est pas un vrai débat. Dans lequel, au fond, on lui pose des questions et on répond avec des longs monologues. Je crois que ce n'est pas ça ce qu'attendent les Français. Je pense que ce qu'attendent les Français, c'est pouvoir exposer leur vie quotidienne, leurs difficultés, leurs attentes, leurs espoirs. Et pour ça, il faut aller les voir directement sur leur lieu de vie, sur leur lieu de travail.
Donc vous,
et c'est ce qu'on a décidé de faire avec ce Tour de France. Vous l'avez dit, avant-hier, j'étais à Belfort, on a échangé avec des artisans. Les politiques s'occupent très peu des artisans. Hier, on était en Côte d'Or et on a discuté avec tous ceux qui font le dynamisme de la viticulture. Aujourd'hui, dimanche, à Langres, cet après-midi, on ira dans un hôpital. Hôpital qui a fait un immense travail pour garder la présence d'un service public de santé. Gros sujet, très peu abordé dans le grand débat.
Demain, c'était abordé, les élus ont fait remonter un certain nombre de revendications aussi auprès d'Emmanuel Macron, c'était en Normandie lors de son premier grand débat.
Mais il faut qu'il puisse y avoir cet échange spontané, pas un voyage sous bulle. Quand j'étais à Belfort avant-hier, il y a un groupe de gilets jaunes qui a demandé à ce que pouvoir échanger ensemble. C'était pas prévu. On a eu cet échange directement. Vous voulez comprendre les Français, il faut aller les voir directement. Et il faut qu'on sorte de cette mise en scène qui, à mon avis, prend le risque assez vite de paraître artificiel. C'est pour ça que j'ai préféré cette démarche, ça a toujours été la mienne, aller directement, prendre le temps, un Tour de France.
Damien Fleurot, on va revenir donc avec vous sur les élections européennes. Vous avez présenté votre tête de liste et deux des colistiers, je le disais, cette semaine. Question de Damien Fleurot.
Oui, Laurent Wauquiez, un chef qui se soustrait est un chef qui disparaît. C'est une phrase prêtée à Nicolas Sarkozy, vous concernant. Il a eu l'occasion de vous le dire directement.
Vous savez, la politique a changé. J'ai pris un engagement lorsque je me suis présenté aux élections dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes.
De conserver votre mandat de président de région.
Une région d'ailleurs que j'ai remportée à la gauche. Je ne me suis jamais soustrait. Toutes les batailles politiques que j'ai menées étaient des batailles politiques difficiles et je les ai toujours remportées. Sur mes convictions. Mais je ne crois plus que la politique dans laquelle on dit quelque chose un jour et puis ensuite on zappe sur un autre mandat en trahissant sa parole et du sens.
Donc il n'y a pas d'intérêt supérieur du pays dans la période que traverse la France ?
Vous savez, le premier intérêt supérieur, c'est que les politiques tiennent parole. C'est la première condition. J'aurais trahi mon engagement. La première question que vous m'auriez posée, vous m'auriez dit, vous n'avez pas de parole. J'ai une parole.
Donc vous irez au bout de votre mandat.
Et pour moi, c'est très important. Par contre, pour répondre à votre question, je serai évidemment totalement engagé dans cette campagne. Parce que c'est une campagne importante. Parce que ce que je veux, c'est qu'on réouvre un choix pour les Français. Parce que je suis convaincu que les Républicains sont la seule alternative en dehors des extrêmes à Emmanuel Macron. Et donc, je connais ma responsabilité. et je sais le devoir qui est le mien. Mais je pense aussi qu'il faut être capable de travailler en équipe. Un chef, ce n'est pas le fait d'aller tout seul, tout le temps, uniquement en abandonnant tous les autres. Un chef, c'est quelqu'un qui fait aussi monter des talents, qui fait monter une nouvelle génération, qui donne sa chance à des jeunes espoirs. On a besoin d'aérer la vie politique. C'est le choix que j'ai fait.
Alors, la nouvelle génération, Nicolas Barré.
Certains dans votre famille politique, d'ailleurs, disent Laurent Wauquiez sera comptable du résultat des élections européennes. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce que, encore Rachida Dati disait ça ce matin dans une interview, est-ce qu'il faut le comprendre comme s'il n'y a pas un bon score aux européennes, vous devrez, votre leadership à la tête des Républicains sera mis en cause?
Mais d'abord, évidemment, on sera tous comptables.
Et vous, le premier.
Et on est tous engagés dans une démarche de reconstruction. Et je vais vous dire quelque chose. On va déjouer les pronostics. Et les sondages me font toujours sourire.
Autour de 12% actuellement.
Oui, troisième liste. La troisième.
Et loin derrière,
la troisième
liste. Le Rassemblement national et la République en marche.
On va déjouer les pronostics. Prenez un peu de distance parfois avec notre façon de commenter l'actualité. Les sondages. Si les sondages avaient raison, Alain Juppé serait aujourd'hui président de la République et il aurait succédé à Dominique Strauss-Kahn. Les sondages, ce n'est pas ça qui fait la politique. Une élection, elle se gagne sur les convictions.
Mais vous avez un
objectif. Elle se gagne sur la détermination.
Mais vous avez un objectif tout de même?
Mon objectif, c'est de reconstruire ma famille politique. Mon objectif, c'est que les gens puissent se dire il y a une nouvelle droite qui a commencé à se construire. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Ils ont tiré les leçons de leurs échecs, de leurs défaillances. Ils construisent quelque chose de neuf. Ce trio, c'est un trio qui représente au fond tout ce qui est la diversité de la droite et sa richesse. Avec François-Xavier Bellamy, on y reviendra, la droite des valeurs. Avec Agnès Evren, talentueuse, elle a remporté la Fédération de Paris, elle a créé son entreprise. Elle correspond à cette droite urbaine dont on a besoin et qui est une parole importante dans notre famille politique. Et puis Arnaud Danjean, qui était juppéiste, qui est une voix écoutée au Parlement européen, spécialiste de la lutte contre le terrorisme, des questions fondamentales, et qui très tôt a dénoncé au fond la grande désillusion qu'a apporté Emmanuel Macron sur la scène européenne après les espoirs qu'il avait soulevés. Et au fond, avec ce trio, c'est un message très fort qu'on envoie. C'est une nouvelle droite. Ce sont des nouveaux visages.
Mais au-delà de ce trio, vous présentez ce trio, mais il y a une tête de liste. La tête de liste, elle s'appelle François-Xavier Bellamy. C'est quelqu'un qui est un marqueur, c'est un prof de philosophie. Il est très engagé dans le combat pour un certain nombre de valeurs à droite et il s'est notamment affiché aux côtés de la manifestation de la Manif pour tous. Il a quand même soulevé le scepticisme de vos propres amis qui, au moment où vous l'avez désigné, ont redit leur scepticisme. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir élargir votre base en choisissant quelqu'un comme ça qui est quand même très clivant?
Pardonnez-moi, mais de grâce, ne caricaturez pas. Est-ce que
philosophe, engagé, c'est pas de la caricature jusque-là.
Pas du tout, c'était pas à ça que je faisais référence. Il n'a pas été soutenu très largement? C'est pas moi qui l'ai désigné. Il a été désigné par une commission dans laquelle on s'est tous réunis. 40 personnes. Sur 40 personnes, combien ont trouvé que cette candidature et ce trio étaient le bon choix? 38.
Le trio.
38 sur 40.
Le trio. C'est peut-être ça qui les a convaincus aussi de vous donner leur assentiment.
Mais tant mieux parce que c'est ce que j'ai voulu. Maintenant, je voudrais revenir un instant sur François-Xavier Bellamy parce qu'il y a quelque chose derrière qui est pour moi très révélateur. Vous l'avez dit, et d'ailleurs présenté avec beaucoup d'honnêteté. C'est un intellectuel, et je pense que c'est bien d'élever un peu le niveau de la politique. De redonner un peu de vision, pas que le buzz, pas que le court terme. Deuxièmement, c'est quelqu'un, oui, qui croit qu'au nom de la modernité, il ne faut pas tout détruire. Qu'il faut des repères, qu'il faut des valeurs, qu'il faut des limites. C'est un de ceux qui a dénoncé notamment les ravages de toute la pensée post-1968 dans l'éducation nationale. Et je vois bien que, bien sûr, par rapport à un certain nombre de chantres du politiquement correct, ça ne correspond pas à ce qu'on considère comme étant admissible. Et donc, à peine sa candidature est annoncée, que toutes les forces se sont déchaînées pour le caricaturer, le détruire.
Enfin, ça s'est passé au sein même de votre formation politique, Gérard Larcher, Éric Woerth.
Et parfois même.
Ce sont des déclarations de membres de
Et parfois même, avec quelques paroles diverses, au sein même de ma famille politique. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une profonde erreur. Pourquoi? Parce que, en politique, on ne réussit pas en marchant à l'ombre. On ne réussit pas en s'excusant de ses idées. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants. On aurait choisi quelqu'un qui, par exemple, aurait fait l'apologie de la gestation pour autrui, c'est-à-dire des mères porteuses. Je ne suis pas sûr qu'il aurait eu le même tir de barrage avec les mêmes sous-entendus moralisants. Et donc, oui, j'assume. J'assume de dire que je veux que la droite s'appuie aussi sur ses valeurs, sur ce à quoi elle croit, sur ses idées. Et à côté, il y a des personnalités qui apportent autre chose. Et ça peut être ça. Chacun vient avec sa sensibilité, mais c'est l'essentiel, en partageant une même vision de ce qu'on veut faire pour l'Europe.
Sur cette question des valeurs, François-Xavier Bellamy, par exemple, ne cache pas sa position personnelle, je dis bien personnelle, intime, sur l'IVG, il y est hostile. C'est aussi votre position. Quelle est votre position personnelle là-dessus ?
Mais pardon, ce que vous dites est faux. Et j'aime bien précisément qu'on ne caricature pas. Est-ce qu'il s'est exprimé sur la loi Simone Veil ? Oui. Est-ce qu'il a répondu avec la plus grande clarté ? Oui. Qu'a-t-il dit ? Il est hors de question de revenir sur la loi Simone Veil. Vous voyez ?
C'est sur pas votre, ce que j'ai dit.
Sur votre plateau même. Sur votre
il
plateau
a
même.
Une position personnelle. Vous donnez. Non pas sur la loi Simone Veil.
Mais qu'a-t-il dit ? Il n'a pas du tout dit qu'il était hostile à la loi. Il a juste
mais
dit.
Mais j'ai pas
je
dit ça.
Contre.
Il n'a effectivement pas dit qu'il était hostile à la loi. Absolument pas.
Et qu'a-t-il dit ?
C'est son opinion personnelle sur ce sujet.
Soyez précis. Soyez précis, c'est important pour pas abaisser
comme ça. Vous dites qu'il n'a pas de remise en cause de la loi, de la loi Veil.
Ce qu'il a dit, c'est je suis contre la banalisation de l'avortement. Il a raison.
Et c'est aussi
ce qu'il a dit.
C'est aussi votre avis, pas.
Quand il dit qu'il ne faut pas remettre en cause la loi Simone Veil, évidemment que je suis totalement d'accord avec lui. Ça va de soi.
Éric est ici chez lui. C'est comme cela que vous avez accueilli au siège des Républicains cette semaine Éric Zemmour, un écrivain condamné pour provocation à la haine religieuse en raison de propos islamophobes. Quand il cessa la réhabilitation du maréchal Pétain sur le thème « Pétain a sauvé des Juifs français », cette version de l'histoire est désormais contredite par les recherches des historiens. Ça ne vous dérange pas d'inviter cette personnalité au siège de votre famille politique ?
Vous voyez, là encore, ça me fait sourire. Il y a ceux qui ont droit au débat, il y a ceux qui n'ont pas droit au débat.
Non, là, on vous demande, il a le droit de débattre, on vous demande si vous êtes d'accord.
Je vais aller jusqu'au bout de la question. Oui, j'ai tenu à ce que Éric Zemmour soit accueilli chez les Républicains. Comment est-ce que je l'ai accueilli ? Soyez là encore
dans le cadre,
précis.
Dans le cadre du
soyez
débat des
là
idées.
Encore, soyons précis sur ce que j'ai dit. J'ai dit que je n'étais pas d'accord, loin s'en faut avec toutes les idées qu'il portait.
Et donc celle-ci, en particulier ?
Mais qu'il était accueilli aux Républicains comme toutes les personnalités qui contribuent au débat dans notre pays. Comme une personnalité comme Luc Ferry qui viendra. Comme tous ceux qui font en sorte qu'on puisse avoir du débat d'idées. Pourquoi ?
Mais est-ce qu'on est sur le débat d'idées lorsque, effectivement, Éric Zemmour, dans un certain nombre de ses ouvrages, notamment le dernier, réhabilite cette idée que le maréchal Pétain a été un bouclier pour les Juifs français ? Est-ce qu'on est encore dans le débat d'idées, selon vous, là ?
Vous connaissez la personnalité d'Éric Zemmour ?
Oui.
Vous savez qu'il vient d'une famille juive ? Dans laquelle on sait le prix qu'on a payé pour l'antisémitisme dans notre pays. Une famille qui a elle-même toujours plaidé pour l'intégration républicaine. Je suis historien.
Mais ça l'autorise
Je ne partage pas la vision qui est celle d'Éric Zemmour sur la question du maréchal Pétain. Mais il a quand même le droit au débat. On ne va pas ostraciser des gens. Vous êtes en train de me dire quoi ? Que donc, dans un parti politique qui est fait pour débattre, discuter, il faudrait que je dise à certains, vous n'avez pas le droit de citer ? Mais évidemment qu'il a le droit de citer. Et que je serais de la même manière très heureux d'inviter des personnalités de gauche, des syndicalistes. Je veux que les Républicains soient un parti porte et fenêtre ouverte. Et je vais aller jusqu'au bout de ce que je pense. La France a besoin de débats. Elle a besoin de débats sereins. Elle a besoin de débats respectueux, dans lesquels vous ne sortez pas les cartons rouges pour dire à un tel, vous êtes banni, vous êtes une personnalité obscure et il faut vous faire un procès en sorcellerie. C'est pas ça ce dont a besoin notre pays. Il faut qu'on puisse se respecter les uns les autres. On peut avoir des débats en matière d'histoire. Moi, ce que je retiens surtout de ce que nous dit Éric Zemmour, c'est quoi ? Soyons fiers de notre histoire. Je ne partage pas sa vision du maréchal Pétain, mais quand il dit qu'il faut retransmettre à nos enfants la fierté du général de Gaulle, de Richelieu, de Clovis, de ce qui constitue l'histoire de France, mais aussi de Maupeou, eh bien, je crois à ça.
Laurent Wauquiez, le président des Républicains et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est l'invité du Grand Rendez-vous à Langres. On se retrouve dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Nous sommes à Langres avec Laurent Wauquiez. pour le grand rendez-vous. Et évidemment, Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur votre projet européen, votre ligne européenne. Une question de Nicolas Barré.
Oui, votre tête de liste, François-Xavier Bellamy, s'est dit favorable à une renégociation de l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, de l'accord sur le Brexit. L'Union européenne, en revanche, exclut cette renégociation. Donc, c'est vraiment ça que vous souhaitez, parce que la France, dans ce cas-là, serait assez isolée en Europe.
Moi, d'abord, la première chose, je ne me réjouis pas que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Ce n'est pas en soi une bonne nouvelle. Qu'on ait la deuxième économie européenne, il faut quand même qu'on garde bien en tête, et qu'il nous quitte, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça dit des choses sur l'Union européenne, ça dit des choses sur le Royaume-Uni, ça dit aussi des choses sur le sentiment d'un certain nombre de classes moyennes anglaises du Royaume-Uni, au fond, de ne pas avoir bénéficié de ce qui s'est passé. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Et la pratique consistant uniquement à dire qu'il faut les punir n'est, à mon avis, pas la bonne. Après, Michel Barnier fait un travail remarquable. Il a fait un travail de négociation. Il a tendu plusieurs fois la main. On voit très bien qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni est en train de basculer dans le chaos. La planche de sortie, et c'est ce que François-Xavier Bellamy a rappelé, c'est que le Royaume-Uni se saisisse de la main tendue par l'Union européenne. C'est ça qui est important.
Mais l'Europe dit qu'il n'y a plus rien à négocier. Barnier dit on a été jusqu'au bout de la négociation. Donc, si on renégocie, c'est pour lâcher quoi ?
Et je le crois d'ailleurs. C'est-à-dire que là, sur le point de sortie et sur la négociation du Brexit, il n'y a plus rien à négocier. L'accord est sur la table.
C'est ce que dit...
Non, en revanche, la question qui se pose, c'est ensuite sur la durée. Une fois qu'on aura géré le contrat de séparation, il y a des questions à se poser et qui, elles, peuvent être ouvertes ensuite, de se demander comment est-ce qu'on les associe, comment est-ce qu'on revoit des programmes ensemble, comment est-ce que, par exemple, en matière militaire, il y a des choses à faire avec le Royaume-Uni. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant, parce que c'est intéressant pour le débat qu'on aura aux Européennes. Quelle est quand même la principale leçon de ce qui se passe au Royaume-Uni ? La sortie de l'Union européenne se traduit par le chaos. La sortie de l'Union européenne plonge un pays dans le désordre. Il y aura des listes qui, au moment des Européennes, plaideront pour cela. C'est d'une manière ou d'une autre avec...
Quelle liste plaide aujourd'hui pour
cela ?
Il
est très clair...
Le Rassemblement national ne dit pas aujourd'hui qu'il faut sortir de l'Europe, par exemple.
Soyons sérieux. Il est très clair, quand vous regardez le projet de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan, que c'est un projet de déconstruction de l'Europe et de sortie de l'Europe. Il est emballé, il est camouflé derrière un certain nombre d'écrans, mais tout le monde a très bien compris que c'est la réalité de leur projet. Prenons un exemple simple. Marine Le Pen dit... Je suis prête finalement à rester dans l'euro, mais je veux que la France retrouve sa souveraineté monétaire nationale. Enfin, c'est prendre les Français pour des imbéciles. L'euro, précisément, consiste à accepter de partager sa souveraineté monétaire en se disant que parce qu'on est avec les Allemands, un pays comme le nôtre qui a autant de dettes et de déficits a sa monnaie qui est mieux protégée contre des risques de dévaluation et donc de perte de pouvoir d'achat, d'appauvrissement des Français.
Le programme de Marine Le Pen pour les Européennes, c'est le chaos ?
Très clairement, c'est un programme de déconstruction de l'Europe. C'est très clairement un programme de déconstruction de l'euro, de Marine Le Pen comme de Nicolas Dupont-Aignan. C'est un choix. Et ce choix, il est parfaitement dans le champ du débat. Il est parfaitement normal qu'on ait ces discussions. Mais il est quand même intéressant de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la frontière au Royaume-Uni. La deuxième chose qui est très intéressante...
Donc, okay, juste un mot sur votre ligne, sur la ligne du Parti Les Républicains pour l'Europe. Oui. Quand, de la même façon, François-Xavier Bellamy dit qu'il n'aurait pas voté en l'état les traités de libre-échange, comme le TAFTA ou le CETA, alors que les députés européens du Parti Les Républicains l'ont fait. On ne comprend plus quelle est la ligne, en fait, finalement. Est-ce qu'il est redevable du bilan des députés européens, François-Xavier Bellamy ? Est-ce qu'il y a un changement de ligne de votre parti politique ?
Mais il y a une nouvelle page qu'on doit évidemment écrire. Vous n'avez pas vu l'Europe se fracturer ? Vous n'avez pas vu l'augmentation de la défiance ? Quelle est notre ligne ? Notre ligne, c'est qu'on croit dans l'Europe. Oui, nous voulons défendre un projet européen. Mais on est convaincu que pour sauver l'Europe, il faut la changer. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement ?
Vos députés européens ont voté ces textes. Ils sont aussi comptables de la situation actuelle.
Mais c'est aussi pour ça que je veux tirer les leçons de nos échecs. Est-ce qu'un traité de libre-échange, par définition, est bon ? Non. Il y a des traités de libre-échange sur lesquels je pense qu'ils sont intéressants. Celui qui a été fait avec le Canada est intéressant. À l'inverse, celui négocié avec le Mercosur soulève de très grosses questions. Et je ne suis pas favorable à ce qu'en l'état, ce traité soit signé. Pourquoi ? On voit notamment que sur les terrains agricoles, mais pas seulement, il soulève de grosses questions. On vient d'avoir un scandale sur la viande avariée polonaise. Ce traité permettrait d'importer de la viande d'Amérique latine qui est bourrée aux activateurs de croissance. Moi, je n'y suis pas favorable. Et donc, Au-delà du traité, quelle est notre ligne? Au fond, vous aurez le choix entre trois options au moment des européennes. L'option de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan, c'est la sortie et la déconstruction de l'Europe. L'option d'Emmanuel Macron, c'est toujours plus de ce qui n'a pas marché. Plus d'élargissement, plus de commission européenne, plus de fédéralisme.
Mais lui aussi dit, on est là pour changer l'Europe. Et c'est ce qu'il a commencé à faire en discutant notamment avec, c'est le discours de la Sorbonne, il a discuté avec Angela Merkel, alors avec des résultats qu'on attend peut-être toujours.
Merci de le dire. Avec rien. Et au fond, qu'est-ce
qui s'est
passé?
Et comment obtiendrez-vous plus, vous?
Je vais vous répondre sur cette question. Il a isolé la France. Et c'est un échec et c'est une inquiétude pour chacun d'entre nous. Quand Nicolas Sarkozy prend la présidence de l'Union européenne, il remet la France au cœur de ses partenaires européens. Emmanuel Macron a une relation aujourd'hui qui est très mauvaise avec l'Allemagne. On l'a vu avec la signature du traité d'Aix-la-Chapelle avec Angela Merkel, qui était dans une ambiance glaciale.
Il s'est mis à dos. Le couple franco-allemand continue de fonctionner, non ?
C'est, tous les analystes sérieux de l'Europe constatent aujourd'hui que le couple franco-allemand sur la scène européenne n'a plus du tout la dynamique qu'il devrait avoir.
Et c'est à cause d'Emmanuel Macron ?
En tout cas, les victoires ne peuvent pas être grâce à lui et les échecs, pas de sa faute. Globalement, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on a un problème avec le couple franco-allemand, mais pas seulement.
Mais donc il ne fallait pas le signer, ce traité d'Aix-la-Chapelle ?
Vous me permettez juste qu'on se pose pour pouvoir le faire au fur et à mesure et je reviendrai avec plaisir sur votre question. On s'est aliéné les pays de la Baltique, très critiques par rapport à Emmanuel Macron. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, vous donnez des leçons à toute l'Europe, vous avez été incapable de baisser votre dépense publique et de gérer vos déficits. Les pays du Benelux ont un discours très critique. Il a critiqué fortement la Hongrie et l'Autriche, qui aujourd'hui nous ont tourné le dos. On s'est mis à dos notre partenaire italien. Et aujourd'hui, les deux seuls partenaires de la France sur la scène européenne, c'est qui? L'extrême gauche avec la Grèce et les socialistes en Espagne. Il faut remettre la France au cœur du jeu européen. Et c'est ce à quoi je m'emploie. En ayant essayé de
avec
retisser
Matteo des liens. Avec Matteo Salvini, avec Viktor Orban,
avec
tout
Angela
le monde.
Merkel, avec tous les partenaires. Quand vous êtes dans l'Europe, il y a un principe de base, il faut discuter avec tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde, mais si vous voulez faire avancer les positions de la France, il faut discuter avec tout le monde. Maintenant, je voudrais revenir sur des points de divergence très précis. Vous avez évoqué les prises de position du président de la République. À Trieste, et c'est son droit, il a très clairement dit qu'il était favorable à l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans. J'y suis totalement opposé. Je pense que l'élargissement a abouti à fragiliser l'Union européenne. Trop de pays, différents, avec des règles fiscales et sociales qui sont trop hétéroclites. Les parlementaires européens, vous m'interrogez dessus, quand ils seront sur la liste, prendront un engagement très clair. Pendant la totalité de leur mandat, ils ne voteront aucune décision qui permettrait d'ouvrir la voie à de nouveaux élargissements. Aucune. Deuxième exemple, vous m'avez interrogé sur les traités de libre-échange. Le choix, et là encore, il est parfaitement respectable, du président de la République, c'est de s'inscrire dans une famille politique au sein du Parlement européen qui est ultra favorable à tout traité de libre-échange, même quand les partenaires qui sont en face ne respectent pas eux-mêmes les règles du jeu. Moi, je considère qu'il faut qu'on réintroduise la notion de préférence européenne. L'Europe, d'abord. Trump a une politique très agressive là-dessus avec America First. Les Chinois sont très agressifs en matière commerciale. Nous sommes trop naïfs.
Donc ce sera votre slogan, l'Europe d'abord, le slogan de la République.
Il faut revenir à une logique de préférence européenne dans les échanges internationaux. Puis la dernière chose, qui est un problème qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'immigration. Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan disent l'Europe ne doit pas s'en occuper. C'est une erreur. Il faut évidemment que l'Europe protège nos frontières. Nous sommes pour un choix européen. Mais quand le président de la République, lui, dit la question, c'est juste de répartir les migrants qui arrivent entre les pays européens, je ne crois pas à ça.
Dans sa lettre aux Français, il dit qu'il faut que le Parlement vote un nombre de migrants par an.
Ben, moi, surtout,
vous êtes favorable à cette position, qui était celle, d'ailleurs, je crois, de Nicolas Sarkozy à l'époque ?
Et de François Fillon pendant la campagne ?
Moi, surtout, ma position, c'est comment est-ce qu'on adopte des règles qui permettent, enfin, de limiter et de réduire le flux d'immigration ?
Mais déjà, définir un quota, c'est une bonne chose.
Mais un quota,
selon vous ?
Si vous n'avez aucun outil juridique et aucun moyen de limiter l'immigration, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, et vous le savez, l'année qui vient de s'écouler, la France a dépassé tous les records historiques d'entrée de migrants en France depuis qu'on a nos statistiques.
Donc renforcer les moyens de Frontex, les gardes-côtes.
Bien sûr. Et nous, notre sujet.
Mais vous êtes favorable au quota voté chaque année au Parlement ?
Si jamais il y a derrière toutes les mesures qui permettent de limiter l'immigration. Parce que je pense qu'on a dépassé nos capacités d'intégration. Je voudrais finir avec un dernier mot dessus. Notre liste sera la seule liste qui permettra à la fois de dire oui à l'Europe, mais d'envoyer un message au président de la République en lui disant ce que vous avez fait pour le pays ne nous va pas.
Donc aussi un référendum anti-Macron, en quelque sorte.
Non, parce que je n'aime pas que les choses soient anti. Mais tout le monde comprend bien que quand on vote pour les listes En Marche, ça veut dire qu'on va re-signer un chèque en blanc pour le président de la République. Notre liste, c'est la seule qui permettra de dire oui à l'Europe, mais ce qui a été fait depuis 2 ans, ce n'est pas le bon cap et il faut le changer.
Laurent Wauquiez, le président des Républicains, est l'invité du Grand Rendez-vous à Langres. On se retrouve dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Laurent Wauquiez, le président des Républicains, est l'invité du Grand Rendez-vous, un Grand Rendez-vous à Langres. Nous sommes à Langres avec lui. Laurent Wauquiez, dans le cadre du grand débat qui a été lancé par le président de la République, le président et le Premier ministre, au gré de leurs interventions, ont commencé à tracer quelques lignes. Alors, on va en venir au fond, mais d'abord, le journal du dimanche nous apprend ce matin qu'il est possible que le président, le 26 mai prochain, au moment des européennes, propose aux Français un référendum avec un choix multiple peut-être. Un, est-ce que vous pensez que c'est une bonne issue démocratique pour ce débat national qui a été lancé? Et puis deux, quelles questions aimeriez-vous poser, voire poser dans ce référendum?
Vous l'avez dit, un certain nombre de vos confrères sont fait écho effectivement d'un projet de référendum dans lequel il y aurait par exemple la proportionnelle ou des changements dans la composition du Parlement.
Réduction du nombre de parlementaires, par exemple.
J'ai vu ça. Attention, attention à ce que de ce grand débat n'accouche pas une souris. Attention à ce que l'issue de ce grand débat ne soit pas des sujets qui sont très coupés des préoccupations et des priorités des Français. Et attention à ne pas donner le sentiment qu'au fond, tout est déjà décidé. Pourquoi je vous dis ça? On va donc sortir de ce grand débat avec comme grand sujet adressé aux Français. On a compris ce que vous nous demandiez. En fait, votre profonde revendication pour votre avenir, c'est changer les règles électorales et modifier à la marge le fonctionnement de nos institutions.
La crise de la représentativité, ça a été un des sujets qui a émergé pendant ce débat.
Et vous pensez sérieusement...
Vous en parliez d'ailleurs en introduction de ce grand rendez-vous.
Oui, et vous pensez sérieusement que la déconnexion et le sentiment de déconnexion des Français, leur première revendication, c'est ça? J'étais à Belfort. J'ai personne dans la rue qui me sautait dessus en me disant, surtout, de grâce, urgence absolue, mettez la proportionnelle.
Le salaire des élus, moins de parlementaires.
Attendez, c'est quand même
un sujet qui...
Je vais venir à la question.
Qui est largement abordé.
Est-ce que c'est un sujet qui ne compte pas? Bien sûr que c'est un sujet qui compte. Mais si c'est le seul sujet qu'on propose aux Français comme point de sortie, alors le président de la République prendra un grand risque. Parce que quel est le vrai sujet? Le sujet de fond, qui est le drame de notre pays, c'est l'absence de valorisation du travail. Le sujet de fond de notre pays, c'est l'appauvrissement des classes moyennes.
Mais alors, quelle question on pose dans un référendum pour essayer de répondre à ce sujet majeur?
D'abord, avant de se poser la question de savoir quelle question dans le référendum, il faut savoir quel cap est-ce qu'on prend. Et surtout, bien faire attention à ne pas cacher un certain nombre de sujets. Je vais prendre un exemple précis, les retraités. On ne parle plus des retraités. Je suis très frappé de ça.
Peut-être parce que leur revendication, ou une partie de leur revendication, a été servie par l'exécutif sur la suppression de la CSG pour les petites retraites, les petits pensionnés.
Soyons clairs et concrets. Un couple de retraités qui est à 1 500 euros chacun, je ne considère pas qu'ils font partie des privilégiés dans notre pays. Vous savez combien est-ce qu'ils vont perdre cette année de pouvoir d'achat?
À cause de la désindexation?
Pas seulement, 1 000 euros. Ils vont perdre 1 000 euros en partie à cause de la CSG et en partie à cause du fait que le président de la République, et c'est vraiment une rupture dans le contrat républicain, refuse maintenant de revaloriser les retraites, ne serait-ce qu'au niveau de l'inflation, ce qui est quand même la décence. Rien n'est réglé sur le sujet des retraités. Les mesures qui ont été annoncées sont juste temporaires. Le gouvernement de la République n'a pris aucun engagement. C'est un exemple des thèmes sur lesquels les Républicains ne lâcheront pas, parce que je considère que vous ne pouvez pas construire la réconciliation du pays en continuant, comme le président de la République en a donné le sentiment, à opposer d'un côté les actifs et les retraités. Les retraités ne sont pas des privilégiés, ils ont travaillé toute leur vie. Un pays comme le nôtre doit offrir des retraites décentes. Échange qui m'a marqué quand j'étais sur le territoire de Belfort. Un retraité vient me voir, 171 trimestres de cotisation, artisan, une retraite à moins de 500 euros. Vous pensez que le problème des retraités est résolu dans notre pays? Non. Et ça fait partie évidemment des sujets qui sont sur la table. Et si on sort avec un grand débat qui nous dit on va vous consulter sur la proportionnelle, mais les questions de valorisation du travail, de la reconnaissance des classes moyennes ou tout simplement des retraités ne seront pas abordées, on ira à un échec majeur. Et la colère du pays n'en sortira que plus grande.
Nicolas Barré.
Le président de la République va recevoir à partir de demain à l'Élysée les présidents de groupes à l'Assemblée nationale donc, et au Sénat, donc Bruno Retailleau et Christian Jacob. S'il devait y avoir un référendum à choix multiples, par exemple, est-ce que vous demanderiez que l'opposition co-rédige en quelque sorte les questions? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez réclamer?
Ça me semble aller de soi, non? Si on soumet une question, il faut associer l'ensemble des sensibilités politiques et qu'il puisse y avoir un débat, c'est normal. Vous m'interrogez sur les questions qui me préoccupent. Je vois bien la tentation, là, sur la sortie de crise, de donner le sentiment que le pouvoir d'achat se décrète à coup de primes gouvernementales et de déficit public. Je pense que ce n'est pas ça le discours qu'il faut tenir aux Français. Et je pense que dans un référendum, ce qui serait intéressant, c'est de dire, voilà, nous, on est prêts à prendre un engagement sur la lutte contre le gaspillage de l'argent public, sur la baisse de la dépense publique, notamment sur le secteur, qui est à mon avis beaucoup trop gros dans notre pays, de l'administration qui produit des normes, qui harcèle. Mais la contrepartie, c'est qu'on rendra l'argent et que l'argent qui sera économisé sera rendu sous forme de baisse d'impôts et de baisse de charges sur les entreprises. Ça, c'est un vrai contrat.
Et comme par exemple le Premier ministre dit rendre l'impôt plus progressif, taxer plus fortement les hauts revenus, est-ce que ça peut être une question soumise dans ce débat du référendum?
Pour répondre au sentiment d'injustice fiscale qui s'est aussi largement
revaloriser
pendant ce débat.
Le travail peut-être?
Mais notre pays est extraordinaire. Notre pays est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que pour aboutir à plus de justice fiscale, on va créer des nouveaux impôts.
Donc on ne change rien, on ne change rien à la fiscalité.
C'est pas ça ce que je veux dire. Vous voulez mettre plus de justice, baissez les impôts. Baissez les impôts de grâce. Vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de prélèvements obligatoires
dans
ce pays?
Mais la progressivité de l'impôt, ça peut être aussi baisser les impôts.
La progressivité de l'impôt, c'est baisser les impôts sur les classes moyennes. Et quand on parle de progressivité, je vois souvent la façon dont on aborde le sujet. En France, on s'occupe soit de ceux qui sont tout en bas, soit de ceux qui sont tout en haut. Moi, mon obsession, c'est ceux qui sont au milieu. J'ai échangé avec un magasinier dans une entreprise. Son témoignage était résumé tous les problèmes de la France. Il était à peu près sur un salaire de 1 800 euros. Sa femme, infirmière de nuit, 1 600 euros. Et il me disait, nous, on paye tout, on n'a aucune aide. Et il finissait avec cet exemple très frappant. La cantine pour mes enfants, c'est 9 euros. La cantine pour quelqu'un qui est au RSA, c'est 1,50 euros. Est-ce que c'est juste? C'est ça votre progressivité? Moi, ce n'est pas la mienne. Les classes moyennes sont trop maltraitées dans notre pays. C'est le problème fondamental. Le sujet n'est pas de créer des nouveaux impôts. Le sujet, c'est
même
de baisser...
Même pour les plus riches.
Mais regardez comment tourne ce type de débat. On a eu ce débat sur la taxe d'habitation, qui est intéressant. On a dit, bon, on va continuer à faire payer la taxe d'habitation pour les plus riches. Et où est-ce qu'ils ont situé la ligne? Pour des couples avec des revenus à 2000 euros. Mais enfin, est-ce qu'on est devenu fou?
Mais c'est bien pour ça que là, ils ont dit que finalement, ils allaient jusqu'au bout de la suppression de cette taxe d'habitation.
Vous habitez à Paris, vous habitez ensemble, chacun gagne 2000 euros et maintenant, vous êtes considérés comme les privilégiés de la France. Pourquoi je me méfie de ce genre de choses? Parce que je sais très bien comment ça tourne. Quand on dit on va mettre plus d'impôts sur les plus riches, ça finit toujours sur les classes moyennes.
Donc, quel impôt
Mon obsession, c'est baisser les impôts.
Quels impôts il faut baisser en priorité, selon vous?
Il n'y a pas vous un impôt sur lequel on n'a jamais touché depuis bien longtemps, c'est l'impôt sur le revenu. Cet impôt-là, on n'en parle jamais. Il est totalement en dehors de nos radars. C'est pourtant un impôt qui est acquitté par ceux qui travaillent, par des retraités qui ont pu travailler toute leur vie. C'est un impôt qui tape très dur sur ceux qui sont au milieu.
Mais acquitté par la moitié des Français seulement?
Et c'est bien le problème. C'est que tout le problème, c'est qu'en France, quand vous commencez à travailler, vous rentrez dans la catégorie imposable à l'impôt sur le revenu. Et là, vous commencez à avoir une courbe d'augmentation de votre fiscalité qui augmente très, très, très vite. Je pense qu'il y a une interrogation à se poser. Moi, je suis totalement ouvert à ce qu'on remette à plat la totalité de notre système fiscal. Je l'ai d'ailleurs dit dans une interview dans Les Échos, mais j'ai une revendication. Mettre à plat le système fiscal, c'est pour baisser les impôts, c'est pas pour créer de nouveaux impôts.
L'impôt sur le revenu, on vient d'en parler beaucoup, puisqu'il est aujourd'hui prélevé à la source et il n'y a pas eu de bug phénoménal.
Mais monsieur Barré, quand même, ne tombez pas dans tous les panneaux. Et donc, le grand débat de notre sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on va collecter l'impôt? Non. Le grand débat de la France, c'est comment collecter moins d'impôts. La question de savoir comment est-ce que le gouvernement collecte l'impôt n'est pas le sujet stratégique pour les Français. La question, c'est comment est-ce que grâce à nos économies, on peut arriver à baisser l'impôt? Est-ce que celui qui vous le dit, en la matière, peut être crédible? Je gère une région. Mon budget est à plusieurs milliards d'euros. En 2 ans, j'ai baissé de 15% les dépenses de fonctionnement dans ma région. Ce qui me permet quoi ? D'être la seule région de France qui a pu baisser la taxation sur l'essence. Si tout le monde s'y met, si tout le monde fait un effort, c'est évidemment possible de baisser les impôts sur les Français.
Laurent Wauquiez, hier, il y avait à nouveau des manifestations de gilets jaunes, 56 000 à peu près, à se mobiliser dans le pays. Un chiffre en baisse par rapport au samedi précédent. Beaucoup de slogans radicaux. Est-ce qu'ils représentent encore quelque chose aujourd'hui, ces gilets jaunes, finalement ? Notamment en raison de la baisse de la mobilisation ?
Il faut ramener le calme. Et vous le savez, c'est pour ça que personnellement, je me suis engagé pour dire qu'il faut qu'on retrouve du calme et de la sérénité.
Et ce n'est pas le cas, finalement, et la sérénité.
Bah, vous l'avez bien vu hier, non. Vous le voyez bien avec les destructions, ce qu'on a chaque samedi.
Il y a eu
même
moins de violence, moins de blessés, même s'il y a un débat sur l'utilisation de certaines armes.
J'étais hier soir à Dijon, qui est une ville que je connais bien. Quand je vois à Dijon une ville foncièrement pacifique, qu'on en est encore à avoir le besoin d'utiliser des lance-eaux pour pouvoir ramener le calme et éviter qu'il y ait de la casse et de la destruction. Est-ce que j'ai envie de ça dans mon pays ? Non.
Est-ce qu'ils représentent encore quelque chose, ces gilets jaunes, selon vous ?
Je suis convaincu qu'au début, les revendications des gilets jaunes étaient justes. La violence a dénaturé le mouvement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça la question. La question, elle est à deux endroits et elle touche les responsables politiques. D'abord, la première, chaque politique a une responsabilité, c'est œuvrer par ses propos et par ses paroles à ramener le calme. Et au premier plan, le président de la République.
Il ne le fait pas aujourd'hui ?
Est-ce que, par exemple, quand encore cette semaine, avec une forme de mépris et d'humour déplacé, il a qualifié Jojo le gilet jaune ? Est-ce qu'un président de la République devrait s'exprimer comme ça ?
Alors c'était dans le cadre privé, à l'Élysée, dans une rencontre avec des journalistes ?
Ah, dans un cadre privé, dans une rencontre avec des journalistes. Vous n'êtes pas dupe de tout ça, je pense. Est-ce qu'un président de la République devrait s'exprimer comme ça ? Est-ce que ses propos sont de nature à ramener le calme ? Non. Le président de la République, s'il veut ramener le calme, doit œuvrer pour faire en sorte qu'il respecte les Français et qu'il ne les méprise pas. Ça n'est pas en méprisant les gens qu'on permettra de remettre de la réconciliation dans le pays. C'est pour ça que moi, je me suis engagé fortement pour qu'on puisse ramener ce calme, pour ne pas pratiquer un jeu politicien qui serait la politique du pire. Je le dis, on ne peut pas continuer à avoir ces manifestations avec ces violences chaque samedi. Mais le président de la République, quand il fait ça, il jette de l'huile sur le feu. Ses paroles aujourd'hui, et il doit y veiller, doivent être des paroles de respect et pas des paroles de mépris.
Des listes éventuellement de gilets jaunes aux européennes, elles peuvent incarner quelque chose ? Vous les craignez ou au contraire vous dites c'est un exercice normal de la démocratie ?
C'est évidemment un exercice normal de la démocratie et c'est bien. Que des gens aient envie de se présenter, aient envie de porter leurs idées au suffrage universel, c'est éminemment respectable. Et je préfère ça de très loin aux casseurs, de très très loin.
Laurent Wauquiez, le président des Républicains et l'invité du Grand Rendez-vous, un Grand Rendez-vous en direct de Langres. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
10h, 11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Laurent Wauquiez, le président des Républicains, est l'invité du Grand Rendez-vous. Nous sommes à Langres. Laurent Wauquiez, ce débat, le grand débat dont nous parlons depuis quelques minutes, a été lancé par Emmanuel Macron, un petit peu comme une bouée de sauvetage pour essayer de sortir de la crise dans laquelle il se trouvait. Sauf que ce débat a l'air de prendre. Il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées. Il y a des Français qui postent des choses sur le site qui émettent un certain nombre de propositions. Vous participez aussi à ce grand débat. Emmanuel Macron dit qu'il espère en tirer un nouveau souffle et qu'il veut installer une démocratie de la délibération permanente. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne façon de gouverner ?
Notre société a évolué. Et c'est une évidence. Et c'est d'ailleurs intéressant que celui qui plaidait pour un pouvoir jupitérien, au bout de 2 ans, commence à ouvrir les yeux. J'espère pas seulement dans les paroles. Il faut qu'on invente un nouveau fonctionnement de notre démocratie. Les interrogations autour du référendum sont intéressantes. Ma région est voisine de la Suisse. On peut s'inspirer de ce qui est fait en Suisse avec ce système de votation organisé, à la fois sur certains domaines où ça ne peut passer que par référendum, sur d'autres domaines où, à condition qu'un certain nombre de citoyens suisses se soient engagés, on soumet une question à la votation à l'intérieur du pays.
Donc on peut assouplir, nous, nos règles de référendum qui aujourd'hui sont quand même très strictes.
J'y mets juste deux limites. La première, d'abord, il ne faut pas dénaturer les institutions de la Ve République. Et la deuxième, veillons à ce que notre pays ne devienne pas ingérable. Parce qu'on l'a connu dans le passé. La 4e République, la 3e République nous ont amené des heures sombres dans notre histoire parce qu'à l'arrivée, notre pays n'était plus gérable.
Donc on vote des lois, mais on ne peut pas revenir sur ces lois par des référendums.
Il faut qu'il y ait des règles qui soient posées. Et évidemment que s'il y a une loi qui a été votée, il peut ensuite y avoir un référendum. C'est normal, c'est naturel. Mais il faut juste que ça ne puisse pas être n'importe quoi, n'importe comment et tout le temps. Et donc, par exemple, le système suisse est intéressant parce qu'il y a un corpus qui est très organisé. Il y a des calendriers qui sont prévus, il y a des règles qui sont fixées. Donc, regardons les exemples étrangers. Il faut qu'on mette plus de consultation, plus de participation. Nous, par exemple, dans le fonctionnement de notre parti, très régulièrement, on consulte nos adhérents pour qu'ils puissent donner leur avis. Dans le cadre du grand débat, on a consulté l'ensemble de ceux qui sont les adhérents de notre famille politique pour qu'on leur dise, voilà, quel est votre avis sur nos propositions et surtout, quelles sont vous, vos idées.
Et comment vous allez le formaliser d'ailleurs pour essayer de nourrir ce grand débat ?
Il y aura une contribution qui sera une contribution des Républicains. Je pense que l'approche de Marine Le Pen, l'approche de Nicolas Dupont-Aignan, qui est au fond la politique du pire, de ne pas accompagner ce retour au calme, est une erreur. Nous, on prend nos responsabilités. Tout ce qui permet de ramener le calme, il faut s'engager.
Sujet très important qui se pose en ce moment, c'est comment traiter les djihadistes qui rentrent en France. Un député républicain, Pierre-Henri Dumont, a évoqué des assassinats ciblés. Est-ce que c'est une idée, selon vous, qui peut être une solution ? Et sinon, comment traiter ces djihadistes ?
Je ne sous-estime pas la difficulté du sujet et les questions juridiques qu'elle pose. Mais très tôt, vous le savez, j'ai fixé ce qu'était ma priorité. Ma priorité, c'est la sécurité des Français. Et pour ça, il faut qu'on adapte le droit. Et je considère, je l'ai toujours dit, que les djihadistes ne doivent pas revenir en France. Un certain nombre de pays ont pris des mesures le permettant. Le Royaume-Uni, par exemple, a pris des mesures d'exclusion de passeport et de déchéance de nationalité. D'autres pays ont fait en sorte que les djihadistes soient jugés là-bas, en Syrie ou en Irak. Ce sont les solutions que je demande au gouvernement d'adopter. Faire revenir sur notre territoire des djihadistes qui ont été parmi les figures les plus engagées de Daesh, qui ont contribué à l'installation de cette barbarie, et prendre le risque ensuite de les faire revenir en France. Quand on sait que, même s'ils passent devant la justice, nous n'avons aucune garantie qu'ils iront en prison, même s'ils vont en prison, on sait très bien qu'avec le système de remise de peine, on peut aboutir ensuite à relâcher dans la nature des barbares et prendre la responsabilité immense que ces gens-là contribuent ensuite à organiser des attentats sur le sol français.
Et les garanties de la justice syrienne, vous y croyez ?
Encore, il faut savoir choisir ses priorités. Ma priorité, c'est la sécurité des Français. Ma priorité, c'est qu'ils ne reviennent pas en France. Ma priorité, c'est pas leur sort là-bas. Ils ont fait leur choix. Ils sont partis en Syrie. Ils ont contribué à l'installation de la barbarie la plus abjecte. Je suis allé en Irak. J'ai échangé avec les victimes de Daesh. Ces gens-là qu'on s'apprête à faire revenir, pour rien au monde, je ne voudrais voir ces gens-là revenir sur le sol de mon pays.
Ce n'est pas qu'on choisit de les faire revenir, c'est qu'à un moment donné, les Kurdes notamment, se disent on va les laisser partir. C'est ça le risque aussi.
Et pourquoi ne pas les confier à la justice en Irak ? Pourquoi ne pas les confier à la justice en Syrie ? Pourquoi ne pas faire des déchéances de nationalité ? Il y a des solutions qui existent. Ce sont ces solutions que je demande au gouvernement de prendre, mais ils ne doivent en aucun cas revenir sur le sol français.
Et l'élimination physique d'un certain nombre d'entre eux sur place, c'est un... comme l'évoquent certains élus.
Ne soyons pas hypocrites. La ministre de la Défense elle-même a dit que si les djihadistes mouraient en Syrie, c'était une bonne chose. Et elle a raison.
Elle l'a dit à ce micro.
François Hollande lui-même a dit dans un livre qu'il avait organisé des opérations pour que la France tue des djihadistes en Syrie. Et il avait raison. La priorité, c'est la sécurité des Français.
Laurent Wauquiez, la loi anti-casseur sera votée solennellement mardi prochain à l'Assemblée nationale, après de nombreux débats au sein même de la majorité. Êtes-vous rassuré que finalement ce soit la ligne sécuritaire de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui l'ait finalement emportée ?
Mais ça n'est
C'était
pas...
une proposition de loi issue de vos rangs, du Sénat, Bruno Retailleau notamment.
Mais ça n'est pas cette ligne qui l'a emportée. Et ce qui me préoccupe, c'est de constater qu'après 2 mois, le gouvernement ne parvient pas à ramener le calme et ne se donne pas les moyens de mettre hors d'état de nuire les casseurs.
Les interdictions de manifester, ça ne va pas suffisamment loin.
Regardons très simplement ce qui a été fait. Nous avions proposé que les forces de l'ordre puissent faire des fouilles de sacs. Ça a été refusé dans la loi. Nous avions proposé qu'il puisse y avoir un fichier des casseurs. Ça a été refusé dans la loi. Nous avons demandé qu'il puisse y avoir des interdictions simples administratives pour que des casseurs ne puissent pas manifester. C'est quand même l'évidence. On interdit à des hooligans de pouvoir aller au stade de foot et on n'interdit pas à des casseurs de manifester. Ça a été tellement cadré avec un tel luxe de précaution que je pense que ça ne sera jamais appliqué.
Donc une loi pour rien.
Et aujourd'hui, vous ne la voterez pas parce qu'elle ne va pas assez loin?
Attendez,
elle est en vote mardi à l'Assemblée nationale.
Je vais aller jusqu'au bout avec un exemple qui est tellement parlant. Ils ont même refusé de mettre des sanctions pour des gens qui vont manifester avec des armes de jet et des projectiles. Mais enfin, comment est-ce qu'on ne peut pas voir et comment est-ce qu'on ne peut pas agir? Cette loi était totalement vidée de sa substance. Nous, on a fait une proposition qu'on a rappelée constamment. Il faut mettre des peines planchers pour ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. S'attaquer à des policiers, s'attaquer à des gendarmes, s'attaquer à des pompiers dans notre pays, ça n'est pas possible. Vous savez ce que je pense? Je pense que ce qu'on paye en partie, c'est notre démission à Notre-Dame-des-Landes. À ce moment-là, on n'a pas compris ce qui se passait. Mais au fond, avoir retiré ce projet, sous la pression de la violence des zadistes, ça a libéré cette installation progressive dans une absence de respect républicain. Même des personnalités comme Clémenceau avaient compris que pour que la République tienne, il faut de l'ordre. Personnalité pourtant qui venait de la gauche. Je regrette que la majorité et que le gouvernement ne se donnent pas les moyens de rétablir le calme. On est quand même en mesure de se poser la question. Ça fait 2 mois. Vous l'avez vous-même dit, il y a maintenant très peu de casseurs et de manifestants. Et le gouvernement n'est toujours pas capable de redonner le calme aux Français. Ça n'est pas normal.
Nicolas Barré, pour une question économique.
Oui, Laurent Wauquiez, la croissance économique faiblit un peu partout dans le monde et en Europe. L'Italie vient de rentrer en récession. Au fond, les mesures qui ont été prises dernièrement par le gouvernement, prime d'activité, heures sup défiscalisées, etc., finalement, elles tombent au bon moment.
C'est ça ce que vous appelez redresser l'économie?
Relancer la consommation, peut-être?
Moi, ce n'est pas ce que j'appelle relancer l'économie. D'abord, attention, il y a un déni. On nous dit que c'est juste un trou d'air. Non, ça n'est pas un trou d'air. Je vois les nuages noirs s'accumuler. Cette année, la France aura une des 3 pires croissances de la zone euro. Tous les pays ne sont pas touchés de la même manière. Nous avons le déficit de la zone euro le plus important avec celui de l'Italie. Et le danger, c'est qu'on soit au fond dans la position de la cigale avec l'hiver qui arrive. C'est que comme rien n'a été fait au cours des 2 ans qui viennent de s'écouler pour limiter la dépense publique, on va se retrouver dans un retournement de cycle qui risque d'être catastrophique. Ce qu'il faut, ce n'est pas des primes gouvernementales. Ce qu'il faut, ce n'est pas du déficit public. La seule façon de reconstruire et de permettre à l'économie française de rebondir, c'est de miser sur le travail et la restauration de la compétitivité des entreprises.
Les heures sup défiscalisées, vous n'êtes pas contre?
Non, mais vous voyez par exemple, et c'est là où c'est intéressant d'aller sur le terrain et d'échanger. Je vous ai dit, j'ai échangé avec des artisans. Ils m'ont dit, mais nous, on ne les fera pas. Et pourquoi on ne les fera pas? Parce qu'ils n'ont pas fait les exonérations de charges pour les employeurs. Et donc, toute l'approche de ce gouvernement n'est pas assez tournée sur la compétitivité des entreprises. La compétitivité française décroche. Le fait d'avoir remplacé le CICE par des allègements de charges, ou au passage, on va réalourdir la facture pour les entreprises, n'est pas bon. Ils ne se sont pas attaqués à la question de l'impôt de production et des impôts de production qui pèsent lourdement sur nos entreprises. Vous savez, moi, ma ligne, c'est toujours la même. On commence par économiser sur le gaspillage de l'argent public et ce qu'on économise, on le rend. Il faut le rendre en allégeant les charges et en enlevant les impôts de production sur nos entreprises. Et il faut le faire en allégeant les charges sur les salariés. Un chiffre, pour conclure là-dessus. En moyenne, les prélèvements sur les sociétés sont à 60% en France. Vous vous rendez compte? 60%. La moyenne dans l'Union européenne est à 40%. Comment voulez-vous que la petite PME, l'artisan ou le grand groupe arrivent à s'en sortir? Et ce que je reproche, c'est que sous des dehors en apparence très orientés en direction des entreprises, la réalité est tout autre. La politique économique qui a été menée depuis 2 ans nous expose très fortement à un retournement de cycle. Il est encore temps de corriger. On est prêt à travailler avec eux dessus. On est prêt à mettre des propositions sur la table comme on l'a fait. Mais il est urgent de corriger le cap de la politique économique. Ce n'est pas les primes gouvernementales qui font le pouvoir d'achat, c'est les entreprises et c'est le travail. Vous voulez distribuer de la richesse, commencez par en créer.
Laurent Wauquiez, on arrive au terme de cette émission. Emmanuel Macron, dans l'entretien qu'on évoquait avec les journalistes, s'est dit scarifié après 20 mois passés à l'Élysée. Est-ce que vous-même, alors vous êtes depuis 14 mois la tête des Républicains, il y a un procès en insincérité qui vous a été intenté, mais par vos proches, par vos propres amis. Comment est-ce que vous-même vous vous sentez scarifié à la tête des Républicains ?
Ça n'a pas de sens quand on a l'honneur d'être engagé pour son pays, de dire qu'on est scarifié. C'est les Français qui souffrent, ce n'est pas les politiques, il ne faut pas confondre.
Donc vous-même, vous ne souffrez pas ?
Moi, vous savez, je suis passionné par ce que je fais. Et je suis passionné par un défi, permettre le rebond de mon pays, permettre sa renaissance, redonner des valeurs et des fondations à notre pays. Et ce procès en insincérité me fait parfois sourire. Le Premier ministre actuel a rejoint Emmanuel Macron caché à l'arrière d'une voiture avec une couverture sur la tête conduite par Benalla. Et c'est à moi qu'on fait un procès en insincérité. Moi, je suis dans ma famille, je n'ai pas changé. Je ne la trahis pas, je défends les mêmes idées, les mêmes convictions. Depuis longtemps maintenant, je défends les classes moyennes. Depuis longtemps, je dénonce l'assistanat. Et depuis longtemps, je dis qu'il faut retrouver le sens du respect et de l'autorité dans notre pays. Je n'ai pas changé de discours. Et le sujet juste en politique, ce n'est pas de chercher à faire de la communication. C'est de rester constant par rapport à ce qu'on porte. C'est mon défi.
Merci Laurent Wauquiez. Merci d'avoir participé à ce grand rendez-vous en direct de Langres. Merci à toutes les équipes techniques de CNews et d'Europe 1 d'avoir permis cette délocalisation à Langres. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Très bonne semaine à tous.